possession, Mère Jeanne des Anges.
Un prêtre.
Et il s'appelle
Grandier.
Grandier.
Ans d'histoire. Ce sont les possédés les plus célèbres de l'histoire, les 17 sœurs d'un couvent du Poitou, dont les crises de démence ont fasciné pendant 7 ans la France entière et provoqué au début du XVIIe siècle un procès en sorcellerie digne des moments les plus sombres du Moyen Âge. Sa victime, un curé, accusé par une mère supérieure, Mère Jeanne des Anges, d'avoir envoûté toutes les sœurs du couvent des Ursulines de Loudun. Il s'appelait Urbain Grandier, et ses idées avancées, sa tolérance à l'époque des guerres de religion et son hostilité au cardinal de Richelieu avaient déchaîné contre lui les plus hautes autorités politiques et religieuses du règne de Louis XIII.
Les chefs d'accusation sont irréfutables. J'ai pu lire un virulent pamphlet dirigé contre son éminence, le cardinal de Richelieu. Un traité sur le célibat chez les prêtres assez piquant. J'ai encore d'autres témoignages, messieurs les juges. Nous avons entendu les démons parler par la bouche des sœurs de Sainte-Ursule et qui disaient, redisaient sur tous les troncs, que l'accusé était un sorcier.
Mensonge et hérésie.
Emmenez le prisonnier. La cour va se retirer pour délibérer.
Gwenaël Murphy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, chargé de cours à l'université de Poitiers, tout près donc d'une ville où il y a 4 siècles s'est déroulé un des procès les plus célèbres de l'histoire de France, l'affaire des possédés de Loudun. Dans un livre que vous venez d'écrire sur cette affaire, vous rappelez au fond l'importance d'abord du lieu où elle s'est déroulée. Loudun, c'était déjà, avant cette affaire, une ville qui était très éprouvée par l'histoire, par les guerres de religion et même par la peste.
Oui, effectivement, Loudun s'est trouvé au cœur du conflit religieux de la fin du 16e siècle. Alors, la ville de Loudun, qui comptait 14 000 habitants, pour vous donner un exemple, comptait à peu près 4 à 5 000 protestants, donc ce qui fait une population extrêmement importante. Elle était à proximité d'un lieu où il y a une bataille extrêmement célèbre pendant les guerres de religion en 1569, qui s'appelle la bataille de Moncontour, qui aurait fait, selon les mémorialistes, 20 à 30 000 morts. Et puis, elle a également été touchée par la peste, qui a sévi dans toute la France, qui a été particulièrement vigoureuse à Loudun, puisque à peu près un tiers de la population est décédée dans cette peste.
Vous dites 4 000 sur 14 000 habitants, c'est quand même considérable.
Alors, ce sont les chiffres de l'époque, qui sont toujours difficiles à vérifier. Il n'y a pas d'état civil pour en être certain, mais en tout cas, on imagine l'ampleur du désastre.
C'est une ville donc éprouvée par l'histoire. C'est une ville aussi où s'installe, parce que c'est la contre-réforme, à la fin des guerres de religion, au moment où elle se termine, on installe évidemment des catholiques Bontain, et notamment ce fameux couvent des Ursulines qui est arrivé assez tard, je crois, en 1626.
Voilà, exactement. Alors ça rentre dans le cadre de la contre-réforme catholique, c'est-à-dire la contre-attaque en fait que lance l'Église catholique au début du XVIIe siècle pour reconquérir l'ensemble de tous les lieux où le protestantisme a pu s'installer.
Et c'est dans ce contexte, donc, qu'en septembre 1633, arrive à Loudun un envoyé de Richelieu qui va jouer un grand rôle dans l'affaire des possédés de Loudun.
Qui êtes-vous?
Baron de Laubardemont, premier président de la Cour des Aides, membre du Grand Conseil de la Couronne, et en l'occurrence envoyé spécial de Sa Majesté pour la démolition des fortifications de Loudun.
Votre serviteur, monsieur l'abbé.
Puis-je savoir pour quel motif Sa Majesté aurait ordonné la destruction de nos remparts?
J'aurais cru que vous seriez le premier à le deviner, monsieur l'abbé, et le premier à vous en réjouir. Loudun est un dangereux repère de huguenots. Il y en a deux fois plus ici que de bons catholiques.
Tout le temps des guerres de religion, chaque protestant de Loudun s'est conduit en fidèle et loyal sujet de Sa Majesté.
Fidélité et loyauté qui, d'un jour à l'autre, risque de se muer en trahison et
rébellion. J'ai parlé à cœur ouvert. Montrez-moi les dits signés de Sa Majesté.
Ne vous mêlez pas de ces détails, monsieur l'abbé. Allez plutôt retrouver vos ouailles.
c'était l'arrivée du baron de Laubardemont à Loudun en septembre 1633. Un personnage important, il va jouer un rôle clé dans cette affaire, Gwenaël Murphy. Il était intendant de Touraine.
C'est ça, et puis Jean-Martin de Laubardemont n'a pas été choisi par hasard, puisque auparavant il avait été conseiller au Parlement de Guyenne. Entre 1621 et 1625, il avait été particulièrement chargé des affaires de sorcellerie. Et il s'était fait remarquer pour avoir envoyé au bûcher à peu près une centaine de personnes.
Ça dit, c'est pas pour cette affaire, on l'a entendu, qu'il arrive. Il arrive pour démolir les remparts de Loudun.
Alors, faut rappeler peut-être un petit rappel là-dessus, oui. C'était pas inutile, mais effectivement, il est intendant de Touraine. Loudun dépend de cette juridiction, et il est envoyé, mandaté par Richelieu pour démolir les murailles et le donjon de Loudun.
Il faut rappeler pour quelle raison Richelieu le faisait. Je crois que c'était après le siège de La Rochelle, après un traité avec les Huguenots qui prévoyait qu'il renonce aux murailles derrière lesquelles il se protégeait. Et à Loudun, il y avait justement beaucoup de Huguenots, on l'a entendu.
Voilà. Alors, on a rappelé le contexte local, mais le contexte national est aussi assez lourd à cette époque-là, hein, puisque les années 1630, c'est une époque de révolte, il y a de nombreuses frondes, des émeutes antifiscales, et puis il y a eu le siège de La Rochelle qui est passé loin, hein, 3-4 ans avant, 1628-29, qui a beaucoup éprouvé Richelieu dans sa crédibilité d'homme politique, et finalement il décide bien d'éradiquer progressivement les 150 places fortes protestantes, et Loudun en fait partie.
Alors cela dit, Gwenaël Murphy, vous avez rappelé qu'il était un spécialiste d'affaires de sorcellerie, c'est pas pour ça qu'il vient, mais cela dit, avant même qu'il y arrive, on avait déjà assisté à des premières scènes de possession. Alors dans votre livre, vous rappelez en quoi ça consistait au fond, ces possessions, comme on disait à l'époque.
Alors faut bien distinguer sorcellerie et possession. Sorcellerie, c'est un peu de la magie noire, si vous voulez, quelqu'un qui a des pouvoirs particuliers et qui peut lancer des maléfices sur quelqu'un d'autres, alors qu'une possession, c'est, selon la définition, quelqu'un qui est possédé par un esprit surnaturel et qui ne contrôle plus son corps et son esprit. Voilà exactement en quoi consiste une possession. Et effectivement, il y a eu un début de possession fin 1632, c'est-à-dire 8-9 mois avant l'arrivée de Laubardemont, mais qui a été récusé par les supérieurs. L'évêque de Poitiers en particulier n'a pas reconnu ses possessions dans le couvent des Ursulines de Loudun.
Je crois que les Ursulines aussi étaient persuadées de revoir un ancien confesseur qui était mort pendant la peste de 1632.
Voilà, alors selon les témoignages ultérieurs à l'affaire, hein, ça aurait commencé comme cela, c'est-à-dire que le confesseur des religieuses était mort en 1631, et puis elles auraient témoigné que le fantôme de ce confesseur revenait régulièrement hanter le couvent. Alors c'est le début de ce qui va devenir l'affaire des possédés de Loudun.
Et puis alors c'est le début aussi de toute une série d'exorcismes pratiqués par le nouveau confesseur des Ursulines, le chanoine Mignon, qui en 1632 obtient de la mère supérieure, mère Jeanne des Ganges, le nom de celui qu'elle accuse de l'avoir envoûté.
L'homme me poursuit, me harcèle. Il me tient des propos d'amour. Lascive, impudique. Je subis ses caresses. Brutale. Obscène. Je le trouve dans mon lit la nuit. Et il me dérobe ce que j'ai consacré à mon divin époux, notre Seigneur Jésus-Christ.
Sous quelle forme est-ce que cet incube se cache?
Un sexe. Grand Dieu. Grand Dieu.
Êtes-vous vraiment tout à fait consciente de la gravité de vos dires?
Oui, secourez-moi, mon père.
Écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, les possédés de Loudun.
Et vous entendez la danse des sorcières de William Braid, un compositeur allemand du XVIIe siècle. Alors, on a entendu auparavant, dans cet extrait de film, on a entendu Mère Jeanne des Anges, Gwenaël Murphy, accuser le curé du village de Loudun, Urbain Grandier. Avant de parler de lui, un portrait quand même de cette femme. D'abord, c'était un fantasme, le fait qu'elle se disait possédée par Grandier.
Alors oui, elle avouera elle-même hein, que elle va se rétracter au cours de la procédure. Elle dira ce n'est pas vrai. Ensuite, elle dira c'est vrai, je suis possédée. Bon, c'est très compliqué, mais évidemment, c'était un fantasme de sa part puisqu'elle ne connaissait même pas ce curé. Alors Jeanne des Anges, c'est une femme qui a une trentaine d'années au moment des possessions, qui est issue d'une famille de petite noblesse et à cause d'une déformation physique, et c'est elle-même qui le dira, elle a été placée au couvent des Ursulines de Poitiers. Puis ensuite, elle a été envoyée à celui de Loudun où elle a été élue supérieure à la fin des années 1620.
Alors, d'autre part, bon, elle accuse le père Urbain Grandier, le curé du village, qu'il était depuis un certain temps, d'ailleurs, je crois.
Depuis une quinzaine d'années, déjà, oui.
Et alors, ce curé, justement, avait une réputation sulfureuse, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Alors, d'abord, une petite mise au point. Dans l'émission de vendredi dernier, sur les intellectuels en mai 68, hein, j'ai fait une erreur. J'ai fait réagir l'écrivain Paul Léoto sur ces événements. Alors, il aurait certainement aimé en être, mais le pauvre était mort 12 ans plus tôt. Il s'agissait en réalité d'un pastiche rédigé a posteriori et malicieusement par Jean-Louis Curtis. Toutes mes excuses donc aux auditeurs, mais revenons
vigilant,
au possédé.
Vous fait remarquer ça.
Et voilà, revenons au possédé de Loudun. En étonnant donc cet Urbain Grandier qui, malgré lui, réussit à mettre en transe tout un couvent d'Ursulines. Alors c'est un homme séduisant, hein, sans aucun doute, tout curé qu'il est. Il était de grande taille et de bonne mine, raconte le prêtre Aubin, d'un esprit également ferme et subtil, toujours propre et bien mis, ne marchant jamais qu'en habit long. Cette politesse extérieure était accompagnée de celle de l'esprit, dit-il. Il s'exprimait avec beaucoup de facilité et d'élégance, il prêchait souvent et s'acquittait de cette tâche mieux que la plupart des moines qui montent en chair. Cependant, ajoute Aubin, Urbain Grandier, fier et hautain, était exposé à beaucoup d'ennemis. Ses hauteurs lui en avaient suscité un grand nombre, et le penchant extraordinaire qu'il avait pour la galanterie lui en avait encore bien plus fait. Un portrait corroboré par un autre habitant de Loudun. Urbain Grandier, dit-il, avait de grandes vertus, mais accompagné de grands vices, humains néanmoins et naturels à l'homme. Il était docte, bon prédicateur, mais il avait un orgueil et une gloire si grandes que ce vice lui a fait pour ennemi la plupart des paroissiens. En ce prêtre beau parleur, hein, c'était merveille, dit-on, que de l'entendre. Eh bien, il aurait donc un point faible, les femmes. Champion, qui est un de ses paroissiens, se fait l'écho des rumeurs qui courent dans les ruelles de Loudun. On l'accusait de fréquentation des filles et de femmes et de jouir de quelques veuves d'assez bonne famille, et de cela il y avait grandes apparences. Alors avec l'affaire donc des possédés, tous ces soupçons vont se transformer en accusations très graves. Un curé, un certain Bouliot, affirme s'être enfermé un jour dans l'église de Saint-Pierre à l'heure du soleil couchant et d'avoir vu, dit-il, le dit Grandier et la demoiselle Madeleine de Dreux tous les deux debout, et que le dit Grandier avait ses deux bras sur ceux de la demoiselle et était en action impudique et indigne. Autre déposition accablante, Gervais Mesquin, un vicaire qui le connaît bien, déclare, je cite, qu'il a trouvé Grandier, couché avec des femmes et des filles, tout de leur long dans l'église Saint-Pierre, les portes étant fermées, qu'à des heures indues de jour et de nuit, il avait vu des filles et des femmes venir trouver le dit Grandier en sa chambre, et quelques-unes des dites femmes y demeuraient depuis 1 heure de l'après-midi jusqu'à 2 ou 3 heures après minuit, et y faisaient apporter leur souper par leur servante qui se retirait incontinent. Et ce bourreau des cœurs va donc, sous les traits du diable, hanter les rêves de l'Ursuline Jeanne des Anges. Quand je ne le voyais pas, dit-elle, je brûlais d'amour pour lui. Et quand il se présentait à moi et qu'il me voulait séduire, notre bon Dieu m'en donnait une grande aversion.
C'était un drôle de paroissien, si je puis dire, ce curé Gonel Murphy.
Ah oui, effectivement.
Bourreau des cœurs, comme disait Stéphanie. Un commentaire peut-être sur des textes qu'on a entendus?
Non, mais je pense que, bon, évidemment, c'est toujours difficile de savoir le degré de vérité des témoignages qui vont être portés contre lui, mais il ne s'en cachait pas, hein, puisque, notamment, il a rédigé un petit ouvrage qui s'appelait le traité du célibat des prêtres, dans lequel il fustigeait le fait qu'on oblige les prêtres à être abstinents. Et il y a une phrase, notamment, il dit « Mieux vaut goûter la femme que de périr d'abstinence », ce qui, pour un prêtre, n'est pas très très bien vu en pleine époque de reconquête catholique.
Hein. Oui, parce que, quand même, on est au XVIIe siècle, parler du remettre en cause le célibat des prêtres, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire à cette époque.
Et justement, alors moi ça m'a étonné quand j'ai travaillé sur ce sujet, mais après avoir fait des recherches alors directement dans les documents de l'époque, je me suis aperçu que beaucoup de prêtres passaient en procès pour avoir fait peu de cas de leur vœu de chasteté dans la région et ailleurs.
Alors cela dit, ces accusations qu'on porte sur lui, qu'est-ce qu'elles avaient de réel? C'est vrai qu'il avait l'air, ça devait faire pas mal de jaloux quand même à Loudun, le fait qu'il avait même plusieurs petites amies, ou alors une seule. On dit aussi qu'il s'était marié en secret.
Alors lui n'avouera qu'une seule liaison, hein, avec une femme qui s'appelle Madeleine de Brou. Les rumeurs de l'époque leur prêtent un enfant commun, on ne peut pas le savoir. Mais il n'avouera jamais d'autres liaisons. C'est-à-dire qu'il est contre le célibat des prêtres, mais il ne dit pas ouvertement qu'il va accoucher avec toutes les femmes de Loudun. Par contre, les personnages importants de la ville, comme le sénéchal, c'est-à-dire celui qui est responsable de la justice à l'époque, vont l'accuser de séduire les femmes mariées, des filles non mariées, enfin toutes les femmes qu'il ne faudrait pas séduire.
Alors déjà, il se met à dos pas mal de gens, hein, voilà, Loudun, on le suppose. Oui, beaucoup d'hommes, oui. Et puis alors, il y a peut-être aussi des raisons plus sérieuses que ces frasques sentimentales qui expliquent son procès ultérieur. Gwenaël Murphy, c'est le fait que d'abord, il était assez tolérant. On était à la fin des guerres de religion, mais à l'évidence, il a éprouvé de la sympathie ou de la compassion pour les protestants.
C'est ça. Alors le contexte, c'est les guerres de religion rampantes, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on élimine progressivement les protestants de tout le territoire sans faire une vraie guerre ouverte. Et lui, il fait plutôt partie de la frange très minoritaire, hein, des catholiques, qui ont sympathisé, qui sympathisent volontiers avec les protestants. C'est-à-dire qu'à Loudun, où vous avez un tiers de la population qui est protestante, eh bien, il va, par exemple, aller avec les protestants qui vont défendre les murailles de la ville, qui vont faire des recours contre l'arrêté royal qui ordonne l'interdiction de ces murailles. C'est même un peu lui qui va être le porte-parole de cette résistance.
Autre chose, on l'a accusé, Gwenaël Murphy, d'avoir écrit un pamphlet contre Richelieu.
Alors ça s'appelle la lettre de la Cordonnière, c'est un pamphlet qui a été écrit en 1627 et qui fustigeait la politique de Richelieu, effectivement, sa politique religieuse trop sévère, sa politique militaire qui mettait le royaume à feu et à sang. Bon, alors évidemment, un pamphlet politique aujourd'hui, ça ferait pas de bruit, ou très peu. À l'époque, c'était exceptionnel, mais c'est un pamphlet qui a été rédigé en 1627 sans qu'on en connaisse l'auteur. Et la seule preuve selon laquelle Grandier aurait rédigé ce pamphlet, c'est lorsque Laubardemont a été perquisitionné dans la cure de Grandier en 1633, après son arrestation, il a trouvé, soi-disant, l'exemplaire original. Donc c'est très difficile de mettre cette accusation-là sur le dos du curé Grandier.
Alors Laubardemont, c'est le fameux intendant de Touraine, hein, venu voilà. À Loudun pour détruire les murailles, et il arrête donc le 7 décembre, je crois, 1633, il arrête Grandier, c'est le début d'une enquête très longue, hein, d'une enquête et d'un procès qui vont durer à peu près 8 mois, et pendant toute la durée du Urbain Grandier va nier toutes les accusations qui sont portées contre lui.
C'est ça, c'est-à-dire que dans un premier temps, pour l'éloigner de la ville dans laquelle il a quand même de nombreux partisans, Grandier, il va être enfermé pendant 4 mois dans la prison d'Angers où il sera interrogé, alors dans des conditions qu'on ne connaît pas, mais enfin on peut soupçonner qu'il est passé à la question, hein, pour avouer.
C'était la torture.
Ses pratiques, voilà. Et comme on n'arrive pas à le faire avouer, donc il a été arrêté en décembre 1633, il est ramené à Loudun en avril 1634 pour être confronté aux religieuses ursulines qu'il ne connaît pas et pour que l'on puisse établir toute la vérité publiquement sur cette affaire de possession.
Alors, confrontation désastreuse. Parce que toutes les religieuses, dans une espèce de transe absolument incroyable, disent qu'elles étaient toutes ou qu'elles sont toutes amoureuses de Grandier.
Voilà, il y a deux confrontations et celle que vous venez d'évoquer, c'est celle du 23 juin 1634 qui est la plus célèbre. Et au premier mot prononcé par Urbain Grandier, qui devait les exorciser lui-même, si vous voulez, c'était la procédure, hein, au premier mot qu'il prononce, les religieuses, selon tous les témoins de l'époque qui ont rapporté ces faits, ont déchiré leurs vêtements, ont hurlé, ont pris des poses lascives, selon les dires de l'époque. Elles se sont précipitées vers lui, elles ont frappé les prêtres qui étaient présents, donc ça a provoqué une confusion générale absolument incroyable.
Alors il y a ce qu'on appelle aussi, dans ce qui va être le procès, les preuves extraordinaire. Alors parmi elles, on accuse Grandier d'avoir signé un pacte avec le diable.
Voilà, alors on est dans l'irrationnel, hein, on est dans des choses qu'on aurait peut-être du mal à comprendre.
Oui, mais qui ont bien existé
aujourd'hui.
Dans ce procès, oui.
Et bien effectivement, dans les preuves extraordinaires, il y en a plusieurs. Alors Grandier aurait signé un pacte avec le diable et c'est Jeanne des Anges qui va le fournir aux prêtres qui font le procès. Donc c'est un pacte qui aurait été rédigé de la main du diable sur lequel il y a les signatures de Grandier au milieu, puis Belzébuth, Lucifer autour. Ça impressionne beaucoup l'assistance. Bien sûr, ce pacte, il a la bonne idée de sortir des mains de Jeanne des Anges le jour où l'évêque de Poitiers vient voir les exorcismes en question.
Puis il y a autre chose extraordinaire aussi que vous racontez, Gwenaël Murphy, c'est pour prouver qu'il a vraiment signé un pacte avec le diable, on dit qu'il y a sur son corps des zones insensibles, ce qui serait une preuve de son commerce avec le diable. Racontez-nous ce que c'est que cette histoire, parce qu'on a fait venir un chirurgien pour vérifier que certains points de son corps n'étaient pas sensibles à une lancette qu'on lui mettait dans le corps.
Alors je vous l'informe, si jamais un jour vous voulez passer un pacte avec le diable, vous aurez au moins ensuite une chose bénéfique qui vous arrivera, c'est que vous aurez un point ou deux points sur votre corps qui restera totalement insensible, à votre choix d'ailleurs. Donc ça, c'est la théologie catholique, si vous voulez, hein. C'est la façon de vérifier, de l'époque, c'est la façon de vérifier si quelqu'un a effectivement passé un pacte avec le diable. Donc, pour vérifier ça, Grandier va être mis nu et transpercé de part en part avec une petite lancette de chirurgie pendant une journée entière pour voir si effectivement il y a, à un moment ou à un autre, il arrête de crier lorsque on le transperce avec cette lancette. Alors évidemment, on va trouver deux points insensibles sur le corps de Grandier.
Enfin bref, on réunit suffisamment de preuves, entre guillemets, pour juger et condamner donc le curé de Loudun le 18 août 1634.
Et Urbain Grandier, vous avez été reconnu coupable de commerce avec le diable. Cette alliance profane vous a permis de séduire, de posséder et de débaucher un certain nombre de religieuses de l'ordre de Sainte-Ursule. Vous vous êtes rendu coupable de pratiques obscènes, blasphématoires et sacrilèges. Il a été ordonné que vous vous rendiez à genoux devant les portails de l'église Saint-Pierre et du couvent des Ursulines, la corde au cou et un cierge de 2 livres à la main. Vous serez ensuite emmené sur la place du marché, lié à un poteau et brûlé vif. Après quoi, vos cendres seront dispersées aux 4 vents. Jugement rendu et prononcé à Loudun le 18 août 1634 et exécutoire le même jour. Vous reste-t-il quelque chose à dire ?
Messieurs les juges, je suis innocent de tout ceci. Et j'ai très peur.
C'était la condamnation d'Urbain Grandier, condamné à être brûlé vif le jour même d'ailleurs de sa condamnation, le 18 août 1634. Et alors une fin épouvantable, vous la racontez dans ce livre, Gwenaëlle Murphy, parce que avant même alors qu'il est condamné à mort, et avant même de monter sur le bûcher, en plus on lui inflige la question, c'est-à-dire la torture.
Oui, c'est la coutume un peu, on donne une dernière chance à celui qui est condamné à mort de pouvoir avouer son crime et donc d'être pardonné aux yeux de Dieu. Voilà, c'est pour cela qu'on va le torturer. Alors, le déroulement de l'exécution de Grandier est assez bien connu. Les témoins, qu'ils soient pour ou contre...